Je commencerai par donner le cadre de mon intervention. C'est donc le fruit de notre expérience, une expérience dans notre institut qui date déjà de pas mal de décennies, qui a donc été éprouvée dans le temps, mais qui en même temps est toujours à adapter aux circonstances du temps présent. Les adaptations sont toujours nécessaires parce que la société change, la société bouge. Et il faut donc constamment s'adapter, tout en gardant le cœur même de ce qu'est un patronage. Et c'est ce cœur que je souhaiterais vous partager. Nous avons actuellement 5 patronages, soit que nous les dirigions, et en assurant également l'aumônerie, 2 patronages de garçons et 2 patronages de filles. Et nous avons aussi un patronage qui est tenu par la communauté des sœurs apostoliques de Saint-Jean, dont nous assurons l'aumônerie. Évidemment, dans ces 5 patronages, nous ne pouvons pas nous passer des bénévoles, jeunes ou adultes, à des titres divers. L'abbé Merkens parlait de l'évangélisation des jeunes par les jeunes. Nous la vivons tous les jours. J'ai bien conscience aussi, dans ce cadre général, que ce que je vous présentera pourra vous paraître irréalisable parce que vous êtes déjà très engagé dans beaucoup de choses. Nous, c'est notre spécialité. Nous sommes, pour l'aumônier et le frère directeur, engagés H24. Ils ne font que ça. Vous, vous avez d'autres charges, que ce soit dans votre famille, dans votre profession ou vos études, ou dans l'Église. Je donne le cœur et après, la réflexion est très ouverte pour savoir que retenir et comment utiliser ce cœur avec les moyens qui sont les nôtres. Ne vous inquiétez donc pas du détail, on va au cœur. Un dernier mot d'introduction, le mot patronage, il fait peur. J'ai souvent entendu la question, mais patronage, ça fait un peu passéiste, ça fait paternaliste, c'est pas le Moyen-Âge mais pas loin. Est-ce qu'on pourrait pas changer? Je dis, écoutez, moi, changer le mot, ça m'est complètement égal. Mais ne le videz pas de son cœur, de sa substance. Alors, si vous avez un autre mot qui permette de distinguer ce qu'est un patronage d'un autre centre d'accueil et de loisirs pour jeunes dont la finalité n'est pas la mission, si vous avez un autre mot, donnez-le-moi, je le prends tout de suite. Je l'attends toujours. Quand on m'en donnera un autre, je le prendrai. Mais pour l'instant, on m'en a pas donné. On tombe sur centre d'accueil, mais beaucoup de centres d'accueil, les municipalités, des associations font des centres d'accueil, il y en a plein. Mais ce ne sont pas des patronages. Ils ne font pas le même travail que le patronage. On s'en rendra compte dans ce que je vais vous dire maintenant. Je commence par quelques chiffres, un peu trash, j'en conviens. Quelques chiffres qui nous donnent l'état de la société tel que nous ne le voyons peut-être pas suffisamment et qui pourtant sont très réels. En France, en 2009, 11 930 avortements chez les 15-17 ans, soit 33 par jour, 365 jours par an. C'est gigantesque. En 2012, environ 100 suicides chez les 5-12 ans, environ 500 suicides chez les 15-24 ans. En 2014, environ 25% des jeunes, un quart, de moins de 15 ans ont fait une tentative de suicide. Je ne parle pas de la drogue. Il y en a absolument partout. Je ne parle pas de l'alcool, c'est un véritable chancre de notre société chez les jeunes. Et les violences commises par les enfants, je vais vous donner un fait. Et si on regarde sur les blessures de l'âme, c'est terrible aussi. Ça, ce sont les jeunes de nos collèges, de nos lycées, de nos quartiers, de nos familles. C'est ça. Ils sont tous dedans. Sous des apparences, parce qu'on va cacher la misère dans le cœur. Et si l'on gratte un tout petit peu, cette misère sort. Un fait que j'ai eu récemment, très récemment, la cour d'assises des mineurs de l'Essonne, près de Paris, planche actuellement, depuis le mercredi 4 janvier 2007, c'est donc très récent, sur une affaire sordide de viol en réunion dont se sont rendus coupables 7 membres d'un groupe de rappeurs, les gangstas du zoo. Je vous laisse apprécier le titre. Habitant d'un quartier à Corbeil-Essonne. Les quatre victimes, âgées de 15 à 16 ans, au moment des faits, étaient violées par les bourreaux rigolards, qui décidaient de l'ordre de passage à pierre, papier, ciseaux, et qui filmaient avec leur portable. Ces rappeurs étaient tous mineurs au moment des faits. Voilà la société que nous avons à évangéliser. Ils ne sont heureusement pas tous comme ça, mais les proportions que je viens d'avoir et que je vous donne dans notre patro de Bourg-en-Bresse, sur 50 enfants, 33%, 1 sur 3, vivent des situations familiales difficiles. Familles recomposées, alors elles sont recomposées parce qu'elles ont d'abord été décomposées, il faut quand même pas l'oublier. Familles divorcées, séparées, où l'enfant est ballotté entre le père, le beau-père, les grands-parents, etc., un peu comme une balle de ping-pong. 20% des familles sont monoparentales, la maman élève seule son enfant. 10% des familles vivent pauvrement, salaire inférieur au SMIC, qui aujourd'hui est à 1 480 € pour être précis, 27. 4 garçons sont orphelins de père, voilà ce que nous avons dans notre patro. Alors les causes, je les évoque rapidement, parce qu'elles sont importantes à savoir et parce qu'elles nous aident à comprendre qu'elles sont très générales. Il y a la pauvreté matérielle, pauvreté économique, des foyers aux revenus très modestes ou touchés par le chômage, des logements exigus, la misère des situations familiales, les familles décomposées, monoparentales, les carences du contexte de l'éducation, les carences de l'école, les carences des médias qui ont un pouvoir attractif énorme. Quel est l'enfant qui aujourd'hui n'a pas son portable avec Internet ? Évidemment, impossible de savoir ce qu'il regarde sur son portable. L'état des cœurs, c'est encore pire. Une enfance gravement perturbée, déboussolée, qui ne sait plus où elle va. Carence affective, la solitude. Les mensonges, les tricheries, on accumule les erreurs, les bêtises et on ment pour s'en cacher. La violence, qui est d'abord verbale quand elle ne devient pas physique, dans les familles. Combien d'enfants sont violentés physiquement par leurs parents? Alors ils le cachent quand ils arrivent à l'école. Ils ont quand même un minimum de respect d'eux-mêmes pour le cacher. Mais c'est une réalité. Les désordres affectifs et les désordres sexuels, une sexualité trop tôt éveillée et perturbée, absolument pas maîtrisée, personne ne la maîtrise, dès le plus jeune âge. On me racontait l'histoire d'un père de famille qui regardait des films pornographiques avec ses enfants de 7, 8, 10 ans et qui trouvait ça très drôle. Avec les cours et les séances d'éducation sexuelle, je mets entre guillemets parce que ce n'est pas de l'éducation, c'est évident. La drogue, l'alcool, la rue qui devient une tentation. Quand les deux parents travaillent, que l'enfant sort à 16 heures de l'école, ben il est tout seul. Ben il va dans la rue avec les copains. Jusqu'aux troubles comportementaux, les psychothérapeutes, les pédopsychiatres sont surchargés de travail. Surchargés par des enfants complètement perturbés. Psychologiquement, une agressivité, une instabilité de comportement, ça explique les chiffres qu'on a vus tout à l'heure. Avec la pauvreté matérielle, l'une des souffrances fondamentales, bien que moins apparente, et c'est ça qui est trompeur, reste la solitude des enfants parce qu'ils ne sont pas aimés. Ils ne trouvent pas chez leurs parents, dans leur famille, quelqu'un qui les aime. Conséquence de la décomposition des familles. Les cœurs des enfants sont en miettes. Alors évidemment, un enfant dont le père est alcoolique, violent, peut-on lui dire que Dieu est père ? Comment lui dire que Dieu est père alors que celui qu'il a chez lui est violent, alcoolique, trompe sa femme, etc., etc. Comment lui dire ? Un enfant dont les parents se déchirent, qui est ballotté au gré des humeurs des uns et des autres, peut-on lui parler de l'amour de Dieu ? Alors bien sûr, on va lui faire des catéchèses et il les faut, et elles sont bonnes, et elles sont indispensables. Mais comment peut-il, lui, l'entendre dans ce qu'il vit ? Un enfant qui est battu, qui est humilié, dont le cœur est détruit, la capacité d'aimer est réduite à rien, comment lui dire que Dieu aime et pardonne ? C'est notre société. Et pourtant, ils sont, comme enfants de Dieu, appelés à la joie de Dieu, au bonheur de Dieu, à la vie de Dieu, à l'amour de Dieu, transmis par les hommes et les femmes qui sont autour de lui. Eux aussi vivent aux périphéries de l'existence et du bonheur. Et eux aussi peuvent prétendre à connaître cet amour de Dieu. Dieu les a créés pour cela. Et au secours que Dieu propose à travers son Église. Combien de souffrances cachées derrière une façade parce que le jeune ne trouve pas un cœur qui écoute. Je me souviens d'un jeune, il arrivait dans un centre aéré, il avait les mains dans les poches jusqu'au coude, regardant le bout de ses chaussures. Bonjour. Et ce centre aéré était à côté d'une prison. Et un jour, il passe pour aller sur un terrain de jeu devant la prison, et les prisonniers de la fenêtre saluaient les enfants qui passaient. Et ce jeune dit à l'éducateur qui était à côté de lui, « Mon père est là-haut. » L'éducateur n'a pas dit, « Hein, qu'est-ce qu'il a fait ?» Non. L'éducateur a laissé passer 3-4 secondes, et après a posé la question, et à la maison, c'est pas trop difficile. Et l'enfant s'est complètement déboutonné. Il avait un cœur qui écoute. Il avait 17 ans. Première fois qu'il rencontrait un cœur qui écoute. Encore faut-il leur donner un cadre de vie, d'activité, un lieu où ils se sentent aimés pour ce qu'ils sont, eux qui sont habitués à être détestés pour ce qu'ils font. C'est tout l'objet du patronage. Alors j'en viens au but du patronage. Il tient en un mot, la mission. Une urgence absolue. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. À ces jeunes, il faut dire « Dieu t'aime, tel que tu es, et veut te faire grandir, et veut t'amener au bonheur, tel que tu es, là où tu es aujourd'hui. Pas tel que tu te voudrais ou tel que tes parents te voudraient, tel que tu es. Dieu nous prend comme nous sommes. » L'évangélisation, annoncer Jésus-Christ. Benoît XVI, dans un entretien avec les prêtres du diocèse de Rome en 2009, le 26 février, disait ceci à une question qui lui avait été posée précisément sur les patronages. Il est certain qu'un patronage paroissial dans lequel on ne ferait que des jeux, dans lequel on ne ferait que consommer des boissons, serait absolument superflu. En clair, on perd son temps. C'est-à-dire que d'autres centres le font. Mais nous, membres de l'Église catholique, évangélisateurs, notre but, c'est annoncer Jésus-Christ. Dire qui est Jésus-Christ et dire que Jésus-Christ t'aime. Et tout le patronage, tous les moyens que l'on va utiliser n'ont que cette fin-là. Il me semble, disait encore Benoît XVI dans la même conférence, qu'il y a aujourd'hui particulièrement une pauvreté culturelle. On sait beaucoup de choses, mais il n'y a pas de cœur. Et c'est pourquoi une solution culturelle inspirée de la foi de l'Église, de la connaissance de Dieu qu'elle nous a donnée, est absolument nécessaire. Je dirais que c'est cela, la fonction d'un patronage. Qu'un jeune trouve non seulement des activités pour son temps libre, mais qu'il trouve surtout une formation humaine intégrale qui complète sa personnalité. Et la formation humaine intégrale, c'est aussi l'âme, créée par Dieu et faite pour Dieu. Alors les moyens pour atteindre ce but, ils sont de deux ordres, je vais les expliquer. Les moyens naturels et les moyens surnaturels. Les moyens naturels, ils portent sur la formation des vertus naturelles, des qualités que chaque homme porte en lui, tout ce qui régit sa vie physique, intellectuelle, morale, qui est commune à tous les hommes, quelle que soit la race, la religion. Nous avons tous une même nature humaine. On trouve l'instruction, c'est le rôle de l'école, c'est le rôle de la catéchèse. On va instruire des choses de Dieu dans la catéchèse. Et l'on va s'adresser à l'intelligence pour montrer ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est vrai. L'instruction à l'école, normalement, c'est fait pour montrer ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est bon dans l'ordre intellectuel, dans toutes les disciplines, littéraires, scientifiques, tout ce que vous voulez. C'est l'instruction. On va s'adresser à l'intelligence. Et là, c'est pour 100% de l'humanité. Ce qui est naturel, ça concerne toute l'humanité. On trouve aussi, on va développer tout ce qui concourt à faire grandir les qualités et combattre les défauts naturels. Les défauts de quelqu'un qui est menteur, tricheur, paresseux, voleur, tout ce que vous voulez, violent. C'est naturel, ça. On le trouve chez tous les hommes. Et il faut commencer par cela. Les moyens surnaturels, c'est tout ce qui vient de la grâce de Dieu, tout ce qui concerne notre vie d'amitié, d'amour avec Dieu. Et on est au-delà de la nature. C'est ce qui nous met en contact avec Dieu. Il porte directement ses moyens sur la vie de l'âme. Ce sont tous les canaux par lesquels la grâce divine va passer pour élever les âmes. Aux vertus chrétiennes, aux vertus surnaturelles, les vertus de foi, d'espérance et de charité, etc. Et toutes les autres vertus morales. Pour résumer cette distinction des moyens, je prends l'Évangile. L'Évangile résume cette distinction des moyens dans une parabole, la parabole du semeur. Le semeur est sorti pour semer, de la graine tombe sur le chemin, de la graine tombe dans le fossé, dans les ronces, et de la graine tombe dans la bonne terre. Eh bien, le chemin, le fossé, la bonne terre, c'est la nature. Le bon grain, c'est la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu, c'est la grâce. Eh bien, si on commence pas par labourer le terrain pour qu'il devienne accueillant à la grâce, eh bien, ça donnera la graine qui tombe sur le chemin, qui sèche. Ça donnera la graine qui tombe dans le fossé. Et chose curieuse, c'est l'une des rares paraboles que le Christ a pris soin d'expliquer lui-même. Il en a expliqué quelques-unes, et celle-là en particulier. La graine qui tombe dans le fossé, au milieu des ronces, eh bien, c'est étouffé par les soucis du monde, etc. C'est une parabole très belle. Alors, les moyens naturels, ils sont essentiels. Ils sont indispensables. Parce qu'il contribue à développer, chacun à sa juste place, le corps, qui est un serviteur indispensable qu'il faut maîtriser. On sait la difficulté à maîtriser notre corps. Sans tomber dans l'excès du culte du corps, évidemment. L'intelligence, pour connaître ce qui est bien, ce qui est vrai, c'est notre intelligence. Il faut la former, il faut l'éduquer. Et ça, c'est valable pour tous les hommes. J'ai eu dans l'un des patronages dont je m'occupais des musulmans. J'allais pas chercher dans le Coran les principes éducatifs, je vous rassure. J'allais les chercher dans l'Évangile. Et ils étaient réceptifs à la mesure de ce qu'ils pouvaient recevoir. Parce que c'était quelque chose d'universel à l'humanité. Et la volonté, il suffit pas de connaître le bien, il faut encore susciter le désir de vouloir, d'aimer, de rechercher ce bien pour l'accomplir. Le moyen privilégié, c'est le jeu. Je souris toujours parce que ça amène parfois des réactions. Bon, attendez, le jeu, c'est pas très sérieux. Non, non. Nous, on joue, mais c'est pas pour s'amuser. On ne joue pas pour s'amuser. On joue pour éduquer. Et c'est un moyen absolument fantastique d'éducation. Même chez les adultes. Même chez les adultes. J'ai eu une fois à organiser des jeux pour à peu près 1200 personnes de 7 à 77 ans. Eh bien, même les adultes, on a fait leur connaissance en les mettant dans le jeu. Alors, pourquoi le jeu est-il un moyen privilégié? D'abord, c'est un moyen d'attrait. Quelqu'un qui n'est pas joueur, il a un problème psychologique, affectif, ou je sais pas quoi. Il a un problème. Quelqu'un qui n'est pas joueur, qui n'aime pas jouer, qui a toujours la tête fourrée dans un bouquin, il y a un problème. Ça, c'est imparable. Hein. Moyen d'attrait qui va permettre ensuite d'aider à assurer l'équilibre de la personne. Il faut à l'enfant des temps de détente dans sa vie scolaire. Il est en période de croissance physique, de croissance affective, de croissance spirituelle. Eh bien, il faut qu'il se détende. Il faut. C'est indispensable. On ne tire pas sur un élastique en permanence, sinon il va se distendre. Il ne sera plus élastique. Il ne sera plus bon à rien. Et il va finir par casser. Alors, c'est la détente du corps, un esprit sain dans un corps sain. Si vous voulez des enfants, des hommes, des femmes équilibrés, il faut donner au corps cette santé du corps. Et plus on fait de jeu, plus il y a de détente physique, plus moins il y a besoin de médicaments. C'est comme ça. Hormis les cas de maladie, évidemment. Le jeu, et c'est là le point, l'un des points essentiels. Je souris parce que me remonte évidemment à la mémoire tout un tas d'exemples. Le jeu révèle la personne dans sa vérité. Et ça, c'est premier. On ne peut pas amener quelqu'un au Christ si d'abord on ne commence pas par faire la vérité en lui, sur ce qu'il est. Dans le jeu, l'homme est au naturel. À l'église, on peut faire semblant d'être sage. À table, à la maison, on peut faire semblant d'être sage. À l'école, on peut faire semblant d'écouter. Dans une conférence, on peut faire semblant d'écouter. Dans le jeu, on ne peut pas faire semblant. Je vous le garantis. Parce qu'on est au naturel. Parce qu'on est pris par le jeu. Et les tempéraments se révèlent. Le tricheur, mais on n'en a pas pour 3 heures à le voir. S'il perd, dans 3 minutes, il triche. Le meneur, si son équipe perd, il prend les choses en main. Et on le voit tout de suite. Le garçon honnête, si au football il fait une main, il pose la balle en disant « j'ai fait une main, point, il n'y a même pas besoin d'arbitre ». Le jeu révèle l'homme dans sa vérité. Et c'est là le cœur même, le point d'ancrage à partir duquel on peut construire. J'avais un garçon, parce que il le révèle à l'enfant, à la personne, il le révèle aussi à l'éducateur. Et chacun sait que l'autre sait. C'est fini les mensonges. J'avais un garçon, il avait 12 ans, un peu nerveux. Quand il perdait au ping-pong, il cassait les raquettes de ping-pong. Bon, au bout de 3 raquettes, je lui ai dit stop, on arrête. Alors il a été privé de ping-pong pendant quelques temps. Et puis après, il ne cassait plus les raquettes, il cassait les balles. Ça coûtait moins cher, mais c'était encore trop. Et puis au bout de 3 ou 4 balles, j'ai dit stop, on arrête. Et puis après, il ne cassait plus ni balles ni raquettes. Il y avait un progrès énorme. Ça a pris des mois, hein. Mais il insultait le garçon qu'il avait gagné au ping-pong parce qu'il était très mauvais perdant. Bon. Il est évident que quand je le voyais dans mon bureau, je disais, t'es peut-être un petit peu violent, non? Ben oui. Il pouvait pas dire non. Il pouvait pas dire qu'il était maître de lui-même. Je l'avais vu et il savait que je l'avais vu. À partir de là, on a pu construire. Mais si on n'avait pas pu mettre la main sur cette vérité-là, un garçon qui est mauvais perdant, comment allez-vous lui parler de la confession? Le lieu où on est perdant par excellence. Quand je vais me confesser, c'est que j'ai perdu, quelque part. Ce garçon, tant qu'on n'avait pas fait ce travail-là, ce travail de vérité, pour le faire se confesser à Pâques, il fallait que je m'y prenne à Noël. Il fallait un tracteur, un palan, une grue, tout. En 4 ans de travail, au bout de 4 ans, il venait se confesser de lui-même sans que j'aie besoin de lui demander. Mais parce qu'on avait d'abord fait la vérité en lui. Et le jeu, on ne peut pas se cacher. Un autre exemple, pour vous dire que ça marche avec tout le monde, on avait un laïc à la paroisse qui traduisait nos homélies dans une des langues, puisque c'était en Afrique, une des langues qu'on ne connaissait pas. Un homme d'une égalité d'humeur parfaite, jamais un mot au-dessus de l'autre. Quand il traduisait, c'était parfaitement bien traduit, etc. L'homme, nickel. Je fais mon jeu là pour la paroisse, donc de 7 à 77 ans, et lui se met à jouer. Et son équipe perd. Et on l'a vu tout seul, au milieu du terrain, rouge comme une pivoine, pour autant qu'un Africain puisse être rouge, de colère, insultant tous les arbitres, m'insultant moi-même qui dirigeais tous les jeux, ont une colère, mais pas croyable, pas croyable. Eh bien, la vérité s'était faite. Un mois après, on apprenait qu'il battait sa femme. Vous voyez la vérité du jeu. C'est imparable. Si on ne fait pas cette vérité, notre travail d'éducation, on laboure la mer. On laboure la mer. Le jeu éduque la personne, parce qu'à partir du jeu, on va pouvoir développer les qualités. Un meneur, on va lui faire mener son équipe pour qu'il développe ses qualités. Quelqu'un qui a mauvais esprit parce qu'on ne fait pas ce qu'il veut, mais le jeu va être un moyen de l'aider à vaincre ce défaut. Un jour, j'étais dans mon bureau et puis un des éducateurs arrive, il avait les 15-16 ans, un peu difficile, il avait un groupe de 30 ou 40 en 2 équipes et puis il y avait une des 2 équipes qui voulait pas jouer, donc il faisait de l'anti-jeu. Alors l'animateur, un peu découragé, vient me voir en me disant « Père, j'y arrive pas, il réclame de jouer au foot ». Je dis « Bon, alors dis-moi quelle est l'équipe qui veut pas jouer ?» C'est celle-là. D'accord. Alors je dis à l'éducateur, avant qu'on arrive à l'équipe, je prends en main le jeu et on va faire perdre cette équipe, sans tricher. On va faire perdre cette équipe, mais mal, tu vas voir. Donc tu vas donner des conseils à l'autre équipe qui veut jouer. Et c'est moi qui prends l'arbitrage. J'arrive et je dis, qu'est-ce qui se passe? Ben, on veut jouer au foot. Bon, très bien, vous jouerez au foot après qu'on ait fait le jeu que l'animateur vous a donné. Donc tout le monde debout, en piste, je prends le sifflet. J'ai arbitré le jeu, de telle sorte que, sans tricher, je vous promets, l'équipe qui avait fait du mauvais esprit a perdu, mais un truc comme 5-30, ou je sais même plus les chiffres, enfin, un truc lamentable. J'arrête le jeu 5 minutes avant. la fin du jeu du temps réglementaire. Et je me tourne vers l'équipe qui a perdu, je dis « Pourquoi vous avez perdu ? Vous êtes les plus forts physiquement, vous auriez dû gagner. Alors dites-moi pourquoi vous avez perdu ?» Alors ils regardaient le bout de leurs chaussures, et puis il y en a un qui me dit « C'est parce qu'on a fait du mauvais esprit. » Et ben voilà. Donc maintenant vous arrêtez votre mauvais esprit et vous gagnerez. C'était fini. On avait réglé un problème. Donc vous voyez, le jeu est un excellent moyen. Il va éduquer la personne à la persévérance, à l'esprit d'équipe, à toutes les qualités que l'on peut trouver dans le jeu lui-même, qui dispense des kilomètres de discours dont il n'a aucun besoin. Un jour, un papa vient me voir en me disant « Père, il faut que tu parles à mon fils. » Je dis « Non. » Les kilomètres de discours, il les a déjà entendus, tu les lui fais depuis des années. Un enfant ne s'attrape pas par la tête. Ben oui, mais je lui ai donné des coups de pied au derrière. Oui, mais un enfant, ça ne s'attrape pas non plus par les fesses. Un enfant, ça s'attrape par le cœur. Il faut l'aider à prendre en main sa propre vie et à vouloir le bien qu'il connaît parce que tu lui as dit. Et on va l'aider à le vouloir à travers le jeu. Le jeu éduque la volonté à vouloir le bien. Enfin, le jeu forme à l'humilité. Vertu maîtresse. Pas de vie chrétienne sans humilité. Je ne vous fais pas un cours dessus. Vous le savez aussi bien que moi. En apprenant à perdre au jeu, et à bien perdre, c'est pas simplement du fair play, c'est l'apprentissage de l'humilité. Ben oui, t'es meilleur que moi. Après, quand il s'agit de parler des moyens surnaturels, de la prière, de la confession, etc., des choses qui sont pas très faciles, reconnaissons-le, s'il a appris l'humilité parce qu'il sait perdre dans un jeu, le reste, ça viendra. Ça viendra, sans problème. Le jeu est un moyen, pour résumer, de faire la vérité, sans vérité on n'avance pas, d'aider à vaincre les défauts en développant les qualités. Le jeu rend les défauts difficiles et la pratique des vertus facile, par l'entraînement. Et comme le jeu, ça attire... Eh bien, l'enfant ne pensera pas à tout ce que je vous dis. Il joue. Alors, à côté des jeux, il y a d'autres moyens, bien sûr. On voit là une religieuse qui joue. C'était une sœur italienne qui nous avait aidés dans les premiers temps au patro de Bourg-en-Bresse et qui jouait. Et sur la photo, encore à gauche, elle est malheureusement un tout petit peu floue. Ce sont deux frères, là, dont l'un anime une veillée. Vous voyez, voilà, des images. Autre moyen, le soutien scolaire. Ça, c'est important. Combien de parents sont incapables, de fait, et sans évidemment aucun jugement, incapables d'aider leurs enfants dans les études ? Ne peuvent pas le faire. Soit qu'ils n'en ont pas le temps, soit qu'ils ne savent pas, soit que. Peu importe la raison. Mais le soutien scolaire est un moyen aussi d'attrait. Les parents, s'ils savent que leur enfant sera aidé dans ses études le soir ou pas trop après l'école en semaine... Il aura un adulte ou un grand jeune qui l'aide à faire ses devoirs du jour, à préparer les cours du lendemain. Je me souviens d'un directeur, non, un professeur, une institutrice qui va voir le frère à Bourg-en-Bresse et elle va le voir vers Pâques. À Noël, l'enfant, il plafonnait à 2,5 de moyenne et à Pâques, il était à 6 ou 7 de moyenne. Et le professeur va voir le frère directeur du patro et lui dit « Mais vous l'avez dopé ou quoi ce garçon ?» Non, on l'a pas dopé, on l'a aidé à travailler, c'est tout, et à travailler régulièrement. Donc ça, c'est un excellent moyen. Des ateliers de travaux manuels, ça aide aussi l'enfant à le délier un petit peu par rapport au réel. Encore une fois, le réel, si on part pas de cela, on n'avance pas. Mais quand l'enfant se tape sur les doigts avec un marteau, il comprend que, voilà, ça éduque, ça aussi. Les mini-camps, les colonies, les sorties, les week-ends, etc., c'est autant de moyens d'attrait qui permettent aux jeunes de grandir en humanité. Ce sont tous les moyens naturels. Mais, j'insiste, ces moyens naturels, on les trouve dans beaucoup de centres. Pour nous, ces moyens naturels ont une finalité, la mission, annoncer Jésus-Christ. Et par conséquent, le choix des moyens va être important. On va prendre les moyens, les jeux, on va choisir les jeux, etc., qui vont, même très indirectement, aider l'enfant à faire la vérité en lui-même. Un jeu où il est facile de tricher, il ne faut surtout pas le faire. Parce que c'est facile de tricher. C'est facile d'être dans le mensonge. Donc, un jeu où il est facile de tricher, surtout, ne le lancez pas. Un jeu où il est difficile de tricher et qui est passionnant, lancez-le. S'il est bien arbitré, l'enfant va jouer et dès qu'il triche, sur le bord du terrain, il va avoir des fourmis dans les jambes dans 2 minutes, surtout s'il est très joueur, mais il apprendra qu'il ne faut pas tricher. Ça l'aidera. Sans discours. Vous voyez, le choix des jeux. Je vous prends un exemple. Le football. C'est un très bon jeu. Je ne le remets pas en cause. Mais c'est un jeu qui, pour l'évangélisation, peut être à double tranchant. Parce que on va avoir dans notre patronage une équipe de football, on va le mettre dans des petites compétitions, etc. L'esprit de compétition, c'est très important, ça compte, ça aide l'enfant à se valoriser. Mais pour l'évangélisation, c'est à double tranchant. Pourquoi ? La sélection des joueurs se fait sur quels critères ? Le physique. Donc le garçon qui est sélectionné dans l'équipe de foot parce que c'est un très bon joueur, il dribble parfaitement, il court à la vitesse d'une fusée, enfin tout ce que vous voulez. Peu importe qu'il n'ait pas un très bon esprit. Par contre, le garçon qui, humainement, se développe bien, qui a un très bon esprit, qui est un meneur, mais qui court moins vite, on ne le sélectionne pas. Donc, il n'est pas encouragé sur ses vraies qualités. Et l'autre est encouragé sur des qualités très secondes. Donc, vous voyez, le lien entre tous ces moyens naturels et la fin, qui, elle, est surnaturelle, est extrêmement important. J'en viens aux moyens surnaturels. Si le terrain a bien été labouré, bien travaillé, qu'on a une bonne terre humaine, les choses se passent de façon concomitante, hein, bien sûr, je les distingue, mais dans le concret, les choses se passent de façon concomitante. Les moyens surnaturels porteront des fruits. Je donne 3 moyens qui sont comme les pieds d'un tabouret. Hein. Un tabouret, si vous le mettez sur 2 pieds, il tiendra pas. Et si vous le mettez sur 3 pieds, il tiendra. La prière, l'Eucharistie, la confession. Ce sont les moyens par lesquels l'âme de nos jeunes sera nourrie. Et la grâce de Dieu, la lumière de Dieu, la vérité, tout ce que vous voulez, venant de Dieu, tombera dans un terrain déjà préparé, bien labouré, bien travaillé, la bonne terre de l'Évangile, et portera du fruit. Et c'est là que l'aumônier intervient. Alors dans la prière, on peut la décliner de différentes manières. Il y a la prière personnelle. Il faut apprendre à avoir une vie de prière personnelle, un contact personnel avec Dieu. La prière communautaire, on fait partie d'une église, on fait partie d'une société, on n'est pas un être isolé. Et donc la prière communautaire, la prière ensemble, est très importante. Ce sont 2 formes de cette prière, de la prière, du lien avec le Christ. La formation, bien sûr, donc tout ce qui est catéchisme, catéchèse, qui est formation doctrinale, formation d'enseignement sur les grandes vérités qui conduisent notre vie. Et l'accompagnement spirituel. Un enfant a besoin d'être accompagné personnellement, d'être écouté personnellement, d'être guidé personnellement. Si le patronage a une chapelle, ce qui est de très loin nécessaire, j'allais même dire indispensable, au moins, une chapelle, quelle que soit la forme, peu importe. Ce que nous faisons, nous, dans notre patronage, c'est quand un enfant arrive au patrou, il ne salue pas d'abord ni le directeur, ni l'aumônier, ni ses copains. Il va d'abord à la chapelle. Et s'il s'avise d'aller saluer le frère directeur ou l'aumônier, le frère directeur ou l'aumônier lui dit « Non, non, il y a quelqu'un de plus important à saluer en premier. » Il va à la chapelle. Il prie 1 demi-seconde ou il prie 1 quart d'heure, ça c'est son affaire entre lui et Dieu. Mais il prend l'habitude de faire passer Dieu en premier. Et il prend l'habitude d'entrer dans la chapelle, alors au début il va peut-être balbutier sa génuflexion et se casser la figure, peu importe, ça m'est égal, mais il va prendre l'habitude de savoir qu'il y a un Dieu là, présent, au tabernacle, avec qui il peut parler. Après, il viendra saluer le frère, le directeur, l'aumônier, ses amis, tout ce que... Après, il rentrera dans le jeu. Ce sont des petites choses, mais c'est important. Après, ce qui se passe dans le cœur du jeune à la chapelle, ça, c'est le problème du Saint-Esprit. Hein. Là, je confie ça au Saint-Esprit. Alors souvent, surtout chez les petits, nous, on avait un groupe de petits de 6, de 7, 7, 8 ans, alors qu'il arrivait toujours en masse. Donc dès que j'ouvrais la porte de la chapelle, il rentrait, envahissait la chapelle, et puis il restait là, très calme. Ouh, il prie, hein. Et en fait, ils attendaient qu'il y en ait un qui se lève pour ne pas être le premier à se lever. Puis dès qu'il y en a un qui se levait, tout le monde se levait. Peu importe, c'est pas grave, ils sont là. Et Dieu les saisira quand il voudra, comme il voudra et de la façon qu'il voudra. C'est l'œuvre de Dieu. Nous, on les met simplement en présence de Dieu. La prière communautaire, un temps de prière ensemble, ça les aide, ça leur apprend dans la pratique courante à entrer dans cette dynamique de la prière de l'Église. C'est pas nous qui portons la prière de l'Église, c'est l'Église qui porte notre prière. C'est pas du tout la même chose. Quand je prie en Église, je joins ma voix, ma petite voix, à la voix de l'Église qui prie. Et leur apprendre cette dimension communautaire de la prière, ça les aide, sans discours, de fait, à prendre en compte la dimension de l'Église, universelle. Quand on prie pour les intentions du pape, quand on prie pour les intentions du diocèse ou les grandes intentions qui sont confiées ou une intention particulière, peu importe, on élargit le cœur aux dimensions de l'Église, de la prière de l'Église. La formation, cathé, causerie, conférence, l'éventail est évidemment très large, mais il faut leur donner l'aliment de l'âme pour connaître le bien afin de pouvoir le désirer. Alors ça peut prendre toutes les formes qu'on veut, là, libre cours à l'imagination des éducateurs, du prêtre, qui aide. Alors ça peut être à différents moyens. Nous, par exemple, nous avons dans nos patronages, vous voyez, le soir des jours importants, c'est-à-dire le mercredi et le samedi, le frère donne des petits avis. Alors il part de fait de vie, comme ça, là, de prix au... Et puis il en dégage une petite leçon. Ça les aide à relier la vie à la vérité. La vie quotidienne, la vie banale, la vie la plus ordinaire. Le prêtre, lui, va faire prier, va donner des avis spirituels. Et l'accompagnement spirituel, qui est évidemment quelque chose de beaucoup plus personnalisé, forcément, qui permet de répondre aux véritables questions personnelles que chacun se pose. Mes questions ne sont pas celles de mon voisin ou de mon frère. C'est les miennes. Parce que je vis ma vie personnelle, avec ses joies et ses peines et ses difficultés et ses contraintes et tout ce que vous voulez. Et il faut donner ce temps-là. Lorsqu'un aumônier parvient à voir personnellement ces jeunes dans l'accompagnement, il peut les mener très loin, les connaissant en vérité par le jeu. Si je connais un enfant, mais il ne va pas me mentir, il sait déjà que je le connais. Il le sait. Donc on va aller droit au but. J'avais un garçon comme ça, c'était mon petit casseur de raquettes d'ailleurs, qui est devenu un excellent éducateur. Excellent. Là, il m'a scotché un jour où il s'est fait insulter des pieds à la tête par un petit de son groupe et où il n'a pas répondu. Lui qui, 4 ans avant, cassait les raquettes. S'il s'était fait insulter de la même façon, dans les mêmes conditions, 4 ans avant, il aurait envoyé l'enfant par-dessus le grillage. Enfin, je ne sais pas ce qu'il aurait fait, mais... Et là, il n'a pas répondu. Et l'aumônier, connaissant ses enfants en vérité, on ne triche plus. Donc on peut aller au cœur même de sa vie et la faire grandir. Parce que la confiance est établie. L'aumônier est l'homme, le cœur qui écoute, dont l'enfant a besoin. Parce que le directeur a fait tout ce travail-là. L'Eucharistie, c'est elle qui fait les saints. Par conséquent, sans Eucharistie, sans communion, la vie chrétienne ne peut que piétiner. Et il faut la préparer. Et il faut aider le jeune à s'y préparer. La messe, la visite au Saint-Sacrement sont autant de rendez-vous dont le jeune prendra l'habitude petit à petit. J'avais un groupe de servants, quand je suis arrivé, après ça a un peu changé quand même grâce au patron d'ailleurs, c'est pas moi, c'est le patron, ils venaient à la messe le dimanche uniquement quand ils étaient de service. C'est un peu court quand même. Et comme j'avais 45 servants, ils pouvaient passer 3-4 dimanches sans servir. Donc c'est 3-4 dimanches où l'église, ils ne connaissent pas. Il y avait un petit peu de travail à faire quand même. Enfin, un dernier élément des moyens surnaturels absolument indispensables, la confession. La rencontre personnelle avec la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas un aboutissement, l'aboutissement c'est l'Eucharistie. La confession amène à l'Eucharistie. Je le mets en dernier parce que c'est le plus difficile et c'est pourtant indispensable. Et c'est lui qui fera porter du fruit aux Eucharisties. On communie et on ne change pas beaucoup. Regardons du côté de la confession. Voilà pour les moyens. L'équipe éducatrice, évidemment, là on voit un de nos pères qui est en train de faire le cathé à trois. On va dire 1 pour 3, c'est un peu cher payé. Non. Non. Parce que entre ces trois enfants et le père, il y a une relation personnelle. Et après, quand l'un ou l'autre de ces trois petits va dire au père ses difficultés, il sait qu'il sera écouté. Parce que le père a accepté de perdre du temps. C'est-à-dire de le donner. C'est pas du temps perdu. L'équipe éducatrice, un directeur. Sur lui repose toute la marche du patron. Un aumônier, des animateurs, des bénévoles. Le directeur, chez nous il est frère, religieux, frère, non prêtre, c'est d'abord un éducateur, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire tout ce travail naturel de faire émerger les qualités naturelles, de labourer la terre. Alors évidemment, quand on laboure la terre, on la blesse. Le frère, il va pas toujours être le gentil. Il va parfois sanctionner, il va parfois punir, il va parfois exclure du patron pendant un jour, deux jours. Pour faire grandir les qualités naturelles. Il est un grand frère, il est un modèle. Il est celui qu'on a envie d'imiter. Il est celui qu'on a envie de suivre, parce que c'est un entraîneur, c'est un meneur d'hommes. C'est un éveilleur de conscience. Éveilleur. Pas directeur. Éveilleur. Il va aider le jeune à se poser les bonnes questions sur le bien, sur le mal, par rapport à la vie naturelle, dans les jeux. Dis donc, tu trouves pas que tu as été un petit peu violent, là ? Tu trouves pas que, en encourageant, ben c'est bien, t'as mené ton équipe à la victoire, c'est bien, t'es bon, continue. Vous voyez, tous ces petits moyens-là, c'est le rôle du frère, et si on voulait résumer, on dit, il est appelé à conduire les âmes au ministère sacerdotal. Il mène ses garçons ou ses filles au prêtre, au ministère du prêtre. Et lorsque l'enfant arrive chez le prêtre, le terrain est déjà fait, déjà prêt. La bonne terre. On ne perd pas de graines. Elles pousseront. Elles pousseront nécessairement. Parce que Dieu le veut. Pas parce que nous le voulons. Parce que Dieu le veut. Parce que la terre est prête. Là, nous avons nos deux directeurs. La photo d'en haut, c'est le directeur qui est une polaire, là. Au milieu de ces jeunes. La photo d'en bas, c'est nos deux directeurs, celui de Bourg-en-Bresse, à droite, et celui du Puy-en-Velay. Vous voyez le frère qui discute avec un jeune dans une salle. Voilà, il est disponible. Il est là pour. Il est là pour les jeunes. L'aumônier, la pièce maîtresse. La pièce maîtresse, parce qu'il est le formateur des consciences. Un jeune se pose la question, non pas simplement du bien et du mal, mais du vrai, du beau. Comment conduire ma vie? Comment développer ma conscience pour chercher Dieu, pour m'approcher de Jésus-Christ? Eh bien, c'est l'aumônier qui va former la conscience, qui va aider le jeune à entrer davantage dans cette vérité, cette bonté, cette beauté de Dieu. L'aumônier est le dispensateur des sacrements. Il est le canal, l'instrument choisi par Dieu pour donner la vie de Dieu, pour guérir un cœur blessé par le péché, pour ressusciter un cœur blessé par le péché. Le prêtre, il fait des résurrections dans le sacrement de confession. Il ne faut quand même pas minimiser son rôle. Mais il n'est qu'un instrument, je vous rassure. C'est Dieu qui fait tout. Et par l'accompagnement spirituel, il est guide de vie spirituelle. Il porte à son achèvement surnaturel l'œuvre d'éducation du directeur. Il couronne le travail du frère, du directeur. Juste un mot pour mes frères prêtres qui sont ici. N'ayez pas peur d'avoir l'impression de perdre du temps dans un patronage. Vous ne le perdez jamais. Jamais. Ah oui, mais je suis au bord du terrain, je vois pas de jeunes, j'ai rien à faire. Si. Si, si. Vous donnez votre temps, vous investissez dans un capital confiance avec les jeunes. Et le retour sur investissement est très immédiat, je peux vous le garantir. Un jeune qui voit que vous êtes là, au bord du terrain, et pas dans votre bureau ou avec votre portable en train de passer vos SMS, mais que vous êtes là pour lui, il sera amené à vous parler. Parce qu'il sait que qu'il ne vous dérange pas. Si l'aumônier est dans son bureau, je parle même pas si l'aumônier est absent du patron, si l'aumônier est dans son bureau en train, dans ses papiers ou en train de préparer son homélie de dimanche prochain, le jeune va hésiter à le déranger. Il n'est pas sûr d'être écouté. Le père a d'autres préoccupations. Mais si le père est là, au bord du terrain, en train de regarder les jeunes jouer, éventuellement en jouant avec eux, c'est encore meilleur, c'est le top du top. Mais le jeune sait que l'aumônier est là pour lui, qu'il ne le dérange jamais. puisqu'il est là pour lui, gratuitement, il donne. Et lui en plus, le prêtre, célibataire, il n'a pas une famille qu'il va rejoindre le soir, donc son esprit n'est pas ailleurs, il est là, pour ces jeunes. Donc, n'ayez pas peur d'avoir l'impression de perdre du temps. Oui, vous le perdez parce que vous le donnez. Et ce qui est donné, ben, on l'a plus, par définition. C'est pas prêté, c'est donné. Et par expérience, je dirais, l'investissement qui peut être une véritable assaise, l'investissement est toujours rentable. C'est pas comme le livret A, la rentabilité baisse pas, hein. Elle augmente dans le temps et dans la durée. Si l'on veut que ce travail porte des fruits. Vous voyez, être à l'écoute, être avec nos jeunes, être au milieu d'eux, nous fatiguer aussi quelquefois avec eux. Une fois, il m'est arrivé comme ça, j'étais en train de jouer avec des jeunes au volet, ou je sais plus quoi. Et puis, il y a un paroissien qui vient me voir. C'est le pauvre paroissien. Alors, j'ai envoyé un jeune, je ne suis même pas dérangé, hein. J'ai continué avec le jeune. Et j'ai envoyé un jeune dire au paroissien, tu dis au paroissien qu'il revienne à 18h30, là, je serai complètement disponible pour lui. Quelque temps après, le jeune m'a fait savoir que, le père, il est là pour nous, hein. Parce que même les adultes, et en Afrique, pourtant, c'est important, même les adultes, il les renvoie. Si on veut investir, si on veut écouter, si on veut que l'enfant puisse s'ouvrir à ce qu'il vit en profondeur, et il vive des choses très belles spirituellement, très belles, mais tellement cachées, parce qu'il ne trouve pas un cœur qui écoute, qu'il n'ose pas le sortir. Et après, je dirais, toute la vie liturgique, la vie sacramentelle, trouvera son couronnement. Il n'aura pas besoin de grue ni de palan pour amener un jeune à se confesser. Il sait qu'on est disponible. La collaboration du directeur et de l'aumônier ensemble dans un dialogue constant parce que ce sont deux regards différents et complémentaires. Vous savez pourquoi on a deux yeux, au fait? C'est pour voir en relief. Si on n'avait qu'un œil, on ne verrait qu'en deux dimensions. Parce qu'on a deux yeux, on voit en 3D. Eh bien, le père et le frère, c'est ce qui leur permet de voir en 3D le jeune. L'un sur le terrain, au plan naturel, l'un qui le connaît, qui le travaille au plan naturel, et le père qui va le connaître au plan surnaturel, l'accompagnement spirituel, les sacrements. Et les deux, étant sauf évidemment la confidentialité absolue, les deux, en travaillant ensemble, peuvent aider le jeune. Mon œil droit a besoin de mon œil gauche aussi. Ils portent ensemble l'éducation. Les bénévoles, animateurs, adultes, jeunes, peu importe, sous la responsabilité du directeur, ils portent un témoignage magnifique. Magnifique. Quand vous voyez des pères de famille, des mères de famille, des religieux, des religieuses qui donnent une heure, deux heures pour faire annoncer un élève sur une leçon de maths qui ne rentre décidément pas, c'est splendide, par le témoignage qu'ils portent. Et quand ils vous font ça une fois, deux fois par semaine, toute l'année scolaire, c'est sublime. Et ils n'ont pas besoin de faire de discours sur la disponibilité, sur le dévouement, sur ces trucs-là, le jeune le voit. Le jeune le voit, le sent, le palpe, le... Et ils constituent ces témoins de l'amour par le don d'eux-mêmes. Ça, c'est pour le soutien scolaire, mais c'est vrai aussi dans les jeux. Vous voyez la sœur qu'on voyait en train de jouer à une tech au pied, là. Évidemment, elle avait un lien avec les enfants parce qu'elle se mettait à leur niveau. Non, pas copain-copain, hein. Non, tu ne me tapes pas dans le ventre, hein. Je ne suis pas ton copain. Mais je joue avec toi, c'est pas pareil. Ils sont évidemment indispensables. Le frère et le père ne peuvent pas faire tout. Vous voyez, là, on voit un papa qui a été chef d'entreprise, qui joue avec un petit dont le museau arrive à peine au niveau du baby-foot. Ça établit un lien. Et là, c'est un jeune étudiant qui vient régulièrement pour nos colonies. Alors, quelques conditions pour la fécondité missionnaire. La première condition, elle vous surprendra peut-être, c'est l'inscription. C'est nécessaire qu'un enfant s'engage. Les touristes, à dégager. Sérieusement. Quelqu'un qui veut grandir, il mènera pas sa vie en touriste. Il faut qu'il s'engage. Il faut qu'il marque, d'une façon personnelle, leur désir de s'engager dans une démarche. Parce que c'est une démarche de conversion, faut pas l'oublier. Le but surnaturel, le but spirituel. Alors bien sûr, on va laisser un petit temps d'essai si on veut, à condition qu'il soit régulier, mais un enfant qui n'est pas régulier, ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Un enfant qui n'est pas régulier par sa présence, ben il ne sera pas régulier dans ses efforts. J'avais un garçon comme ça, il était irrégulier. Je savais comment ça marchait à l'école et je savais comment ça marchait à la maison par sa régularité au patron. Quand il était irrégulier au patron, ses notes chutaient. Et quand il était irrégulier au patron, à la maison, ça devenait un enfer. Il était lui aussi très violent. Et quand il était régulier au patron, tous les autres baromètres remontaient. Alors, on s'est vu, et puis je lui dis, ben, voilà, le résultat, c'est ça. Maintenant, tu connais le moyen pour réussir à l'école, tu connais le moyen pour qu'à la maison, ça se passe un peu mieux et que tu ne prennes pas tes parents pour tes boys, et tout ira bien. La régularité est indispensable. Et là, l'inscription est un moyen d'aider le jeune à être régulier. Conditions pour l'inscription, aucune. Je note, même si je ne crois pas que vous en ayez beaucoup ici, mais pour les musulmans, il est indispensable d'avoir l'accord du père. Cette disposition permet de respecter l'autorité du père. Chez les musulmans, c'est très très important. Et là encore, c'est l'expérience qui parle. La régularité, la répartition des temps entre le jeu, les causeries, etc. Je vous donne un petit indicateur. Dans le patro, lorsque j'étais au patro, hein, le mercredi après-midi, sur 3h30 de patronage, on avait maximum 20 minutes de temps de prière. Le reste, on joue. On joue. Un quart d'heure, allez, 25 minutes, allez, soyons gentils. Un quart d'heure de petite causerie, et puis 10 minutes de prière à la fin de la journée. Le reste, on joue. Parce que tout se fait là. Alors bien sûr, pendant les jeux et à d'autres moments, le prêtre peut voir les jeunes, évidemment. Le choix des activités, je vous l'ai dit tout à l'heure, est fait en fonction de cette finalité d'éducation humaine et spirituelle. La responsabilisation est évidemment aussi indispensable. L'enfant va apprendre progressivement à donner et puis à se donner. Quand on va responsabiliser un enfant pour distribuer les jeux, pour ramasser les jeux, pour animer une équipe, pour animer un jeu, pour être chef d'équipe dans son jeu, on va lui apprendre à prendre des responsabilités. C'est indispensable, toute sa vie il en aura. J'ai enfin parlé de la présence du prêtre, je n'y reviens pas. Elle est évidemment indispensable. Un patron sans prêtre, le directeur ne pourra pas aller au bout. Il ira au bout de ce que lui peut faire, oui, mais ça sera une impasse. Parce qu'il n'y aura personne pour couronner ce travail d'éducation spirituelle. Les aspects administratifs, je serai très rapide là-dessus. Du point de vue de son existence légale, il y a deux possibilités. Soit un accueil de loisirs, une déclaration en préfecture, ça suffit, comme un accueil de loisirs. Ça donne une certaine visibilité. Simplement, il y a une petite contrainte au niveau du personnel, parce que il faut un animateur pour 12 enfants. C'est la législation en vigueur, il faut évidemment s'y conformer. Une deuxième possibilité qui est très bien quand il s'agit de démarrer un patro, c'est largement suffisant, c'est déclarer, on ne le déclare pas en préfecture, c'est une activité paroissiale, comme le caté. C'est ce qui s'est fait pendant des décennies dans toutes nos paroisses de France. Simplement, il faut penser à une assurance responsabilité civile en cas d'incident. Je termine. Le patronage est réellement, à mon sens, une réponse au défi de l'évangélisation, qui porte beaucoup de fruits. Quand on interroge des anciens, on se passe « Ah, mais oui, moi j'ai fait du patronage quand j'étais jeune à ma paroisse, mais il y en a plein, plein, plein. Et ça m'a appris beaucoup. » Et les fruits, Dieu nous donne la grâce d'en saisir quelques-uns, d'en voir quelques-uns. Des guérisons affectives, psychologiques. Je vous donne là un exemple. René, qui n'a pas vu son père depuis l'âge de 4 ans. Il a un demi-frère de 15 ans. Sa mère vit seule et travaille de nuit à l'hôpital. C'est un cas réel, hein, c'est pas un inventé. Hein. Tempérament angoissé et hésitant, on le serait à moins. Il a dû être confié à un psychothérapeute. Aujourd'hui, ça c'était il y a 2 ans, je crois. Après 7 mois de patronage, même pas une année scolaire, il est dans le groupe des chefs d'équipe pour les Jeux. Il retrouve confiance en lui-même et il prépare sa première communion. C'était pas gagné quand il est rentré au patron. Des conversions. Nombreux sont les retours à Dieu. Alors, quand on a l'enfant, on a la famille derrière, hein, à 100% des cas. C'est rare que la famille ne pointe pas le museau, pas trop, pour se demander comment on fait pour que l'enfant finisse par dire merci à la maison et s'il vous plaît. Donc ils viennent voir un petit peu ce qui se passe dans le patro. Et de proche en proche, ça amène beaucoup de retours à Dieu, des vies sacramentelles abandonnées depuis des années, voire plus, qui repartent, qui redémarrent. Des confessions de plusieurs années, des situations matrimoniales régularisées, des cas de nullité de mariage qui sont déclarés parce que l'aumônier prend les choses en main et aide les parents à résoudre une difficulté humainement insupportable. Et puis après, régularisation de mariage, de situation de concubinage, etc., etc. Le plus beau fruit, ce sont les vocations religieuses. Je donne un chiffre, entre 1980 et 1999, c'est-à-dire soit en 20 ans, dans une congrégation qui tient des patronages, alors que les vocations diminuaient partout dans ces années-là, même si elles redémarraient, mais elles étaient quand même descendues très très bas, 15 vocations religieuses sur 25 sont nées dans le patronage. C'est un chiffre. 15 garçons, là en l'occurrence, sont nés dans le patronage. C'est-à-dire un garçon qui finit par dire à 16-17 ans « Mais pourquoi je ferais pas comme le père ? Pourquoi je ferais pas comme le frère ? Pourquoi moi je donnerais pas ma vie ?» Et la question, elle vient pas comme un cheveu sur la soupe, elle vient parce qu'il a appris à donner, parce qu'il a eu des exemples de don de soi, parce qu'il a eu des exemples de dévouement, parce que sa conscience a été éclairée, parce qu'il a appris à prier, parce qu'il a appris à écouter Dieu, parce qu'il a vu un cœur qui écoute, parce qu'il a appris à se dominer lui-même, le corps, l'intelligence, le cœur, parce que sa volonté, etc., etc. Vous voyez, tout le travail dont j'ai parlé au plan naturel et surnaturel aboutit. Dieu n'est pas devenu muet depuis quelques années à ne plus appeler, c'est nous qui sommes devenus sourds. Et le patro apprend à écouter Dieu. Une réponse au défi de l'évangélisation aujourd'hui, j'en suis de plus en plus convaincu. Et au niveau des enfants, je vous cite un dernier chiffre. Il y a quelques années, il y avait un premier synode sur l'Afrique en 1994, et il y avait un questionnaire qui avait été donné. Et moi, je l'ai proposé à mes grands, 14, 17 ou 18 ans. La première, il y avait deux questions. La première, qu'est-ce qui vous a amené dans l'association, le groupe où vous êtes ? En l'occurrence, le patro. Les réponses, le foot, les copains. Ah bah papa s'est trompé, il m'a inscrit dans ce truc-là alors qu'il croyait que c'était un club de foot, qui faisait des compétitions. J'avais rien à faire. J'ai vu la lumière, alors je suis rentré. Toutes les raisons étaient à ce niveau-là. Deuxième question, qu'est-ce que vous avez reçu au patro ? J'ai appris à prier, j'ai appris à parler à mes parents. J'ai appris à m'exprimer correctement. J'ai appris le dévouement par l'exemple du père, du frère, des éducateurs. J'ai appris, on était passé sur un autre registre, le registre de la vie chrétienne. Il suffit de dire à un enfant, monte plus haut. C'est tout. Ils en sont tous capables. Tous. Bonne mission.